Auditrices, auditeurs, bonjour. Merci d'être avec nous dans cette émission sur la situation de la liberté de la presse en province du Sud-Kivu. Cette émission est produite en marge de la Journée internationale de la liberté de la presse, célébrée le 3 mai de chaque année. Afrique du Congo est classé 152e au classement mondial de la liberté de la presse sur 180 pays. C'est ce qu'indique le dernier rapport de Reporters sans frontières, apparu cette année. Et dans ces documents, Reporters sans frontières note qu'avec la perspective de la prochaine élection présidentielle, le pouvoir harcèle de plus en plus les organes de presse en RDC. Cette ONG relève qu'une dizaine de médias ont même été fermés ou suspendus dans plusieurs pays de la République démocratique du Congo. Quelle analyse faire de cette situation? Voilà la question que nous débattons au cours de cette émission. Pour en parler, je reçois dans ce studio M. Deo Mugnololo. Il est directeur de la radio universitaire ISDER Bukavu et président du conseil d'administration du RATECO. M. Deo Mugnololo, bonjour.
Bonjour, bonjour monsieur.
Nous sommes également dans ce studio avec Douce Namwezi. Elle est chargée des programmes à l'association des femmes des médias FM. Douce, bonjour et bienvenue.
Bonjour Élisée, merci.
Nous sommes également avec Maître Papi Kadjabika. Il est responsable de l'ONG Vision Sociale. Il est défenseur des droits de l'homme. Maître, bonjour.
Bonjour Élisée.
Darius Kitoka, président de l'Union Nationale de la Presse du Congo, va devoir nous rejoindre dans cette émission. Mais à toutes et à tous, nous souhaitons la bienvenue et bonne condition d'écoute. J'ajoute également que cette émission est réalisée par les réseaux de radio et télévision communautaires du Congo, RATECO Sud-Kivu, en collaboration avec la Fédération des radios de proximité du Congo, avec l'appui financier de l'USAID. Et cette émission est diffusée en direct à partir du studio de Radio Maïndélo émettant des Bukavu. Elle est prise en relais par les radios ISDER, Nenola Uzima, Maria de Bukavu, les messagers du peuple à Uvira, Sangé, RCK de Kamagnola, Molangane de Walungu, Amka de Bunyakiri, Bubandano de Minova, Obuguma du Nord et Edjulino du Sud. Jean-Claude Ndaga sur la mise en onde. Je m'appelle Élisée Mouzalia. Avant d'entrer dans les vifs de cette émission, nous allons d'abord écouter notre confrère Don Paulin Tchiringui de la radio universitaire ISDER qui nous retrace ici la situation de la liberté de la presse au Sud Kivu.
La RDC occupe la 152e place sur 180 dans le classement mondial 2016. Reculant de 3 places en une année selon Reporters sans frontières. Cette organisation s'est inquiétée mercredi 20 avril dernier dans un communiqué de la brusque dégradation de la situation de la liberté de la presse en République démocratique du Congo. Selon toujours la même source, au-delà de la place au classement, c'est la performance absolue de la RDC en matière de liberté de la presse qui s'effondre. Les détentions arbitraires, coupures des signaux radio et les intimidations se normalisent. Les pouvoirs harcèlent de plus en plus les organes de presse en RDC, alors que le climat politique est très tendu dans le pays en raison de l'incertitude liée au très probable report de la présidentielle, censé avoir lieu à la fin du mois de novembre, affirme notre source. La même source note également que l'opposition accuse le président congolais Joseph Kabila au pouvoir depuis 2001 et à qui la constitution interdit de se représenter, de manœuvrer pour se maintenir à la tête du pays au-delà du terme de son mandat. Pour rappel, en 2015, une dizaine de médias ont même été fermés ou suspendus, des émissions interdites, du matériel confisqué et des locaux saccagés dans plusieurs régions du pays. Dans les rapports de Reporters sans frontières, on dénonce également une insuffisance des autorités congolaises dans la protection physique des journalistes, citant entre autres les cas du meurtre en avril 2015 du journaliste Soleil Balanga dans l'ancienne province de l'Équateur Nord-Ouest. Le ministre de la Communication et des Médias, Lambert Mende, a indiqué que les crimes contre les journalistes ne sont ni tolérés ni impunis. En février, la justice congolaise a condamné à la peine capitale un des 5 prévenus poursuivis pour l'assassinat de Balanga. Depuis 2002, dans le mois d'avril, l'Organisation congolaise Journalistes en danger, JED, a dénoncé l'agression le 14 du même mois à Kikwit, dans la province du Kwilu, du journaliste Bandilo Kawanda, travaillant pour une radio locale dans les installations de l'ANR, Agence nationale des renseignements. Pour revenir au site Kivu, les bureaux de protection des droits de l'homme de la MONUSCO Bukavu, le sud de Kivu est considéré comme la province précurseur de l'édit portant protection des défenseurs des droits humains et des journalistes. Pour M. Mamadou Sadio Diallo, responsable de ces 10 bureaux, il y a des avancées significatives quant à la liberté d'expression.
Nous avons fait ce combat depuis 7 ans. On sait que dans le passé, ici dans le sud, que vous, il y a eu beaucoup de problèmes par rapport aux journalistes et des journalistes qui ont même été tués. Et à cause de cette situation, nous nous sommes battus pour qu'il y ait un édit portant protection des défenseurs des droits de l'homme. Et Dieu merci, le 10 février dernier, l'édit a été promulgué par le gouverneur de la province du sud Kivu et le résultat qui a été probant.
Dans le même angle, rappelons que l'Observatoire de la liberté de la presse en Afrique a salué le verdict rendu par le tribunal de paix de Bukavu condamnant l'auteur des menaces contre Donatien Moussema, directeur d'Iriba FM, station communautaire, et mettant Bukavu, chef-lieu de la province du site Kivu, à l'est de la République démocratique du Congo. Don Paulin Chiringui, pour la radio universitaire ISDR Bukavu.
Voilà, merci Don Paulin Chiringui pour cette situation. Alors, monsieur le directeur de Omunyololo, je rappelle que vous êtes directeur de la radio ISDR et président du conseil d'administration du RATECO. D'entrée des jeux, quelle est la situation de la liberté de la presse en province?
Merci pour la parole et bonjour à nos auditeurs. La situation, je dirais, elle n'est pas encourageante. Nous venons de suivre ce que vient de dire le reporter. C'est que réellement, le mal est plus prononcé dans notre province, c'est-à-dire l'insécurité. Et je dirais que c'est une conséquence logique que la réalité qui blesse souvent ait aussi des problèmes à se manifester. Et c'est ça le problème aussi de liberté. C'est-à-dire, dans notre province, la situation est telle qu'il est difficile de dire la vérité. Et c'est ce qui réduit toute cette propension à la liberté de la presse.
Oui, mais cela peut être lié à quoi?
Je dirais oui. Et quand je dis correctement, c'est qu'il faut reconnaître que de temps en temps, il y a des insuffisances dans la présentation ou dans la préparation de l'information. Mais quand on va dans le fond de choses, c'est toujours la réalité. Parce que quand nous parlons liberté de presse, qui définit cette liberté? Est-ce le texte qui définit la liberté de presse? Est-ce l'autorité qui définit? Donc, qui définit cette liberté? Et c'est ça.
Darius, nous sommes ensemble dans ce studio. Pour l'UNPC, la liberté de la presse existe bel et bien en province du Sud Kivu.
Mais il convient de noter que la liberté d'expression fonctionne déjà ici chez nous. Liberté d'expression. Et la liberté de la presse, c'est juste un corollaire de cette liberté d'expression. Pourquoi je dis cela? La liberté de la presse, dans le sens de la liberté de ton, dans le sens de l'accès peut-être aux médias, dans le sens de la liberté de penser qui doit être communiquée. Nous ne pouvons pas dire que cette liberté-là n'est pas là. Mais quand vous parlez de la liberté de la presse, moi je voudrais m'inscrire dans la logique où cette liberté de la presse implique la liberté d'information, la liberté d'accès à l'information. Et la liberté d'accès à l'information a comme l'autre face de la médaille la liberté d'être informé, le droit d'avoir l'information. C'est là que ça cloche ici chez nous au Sud Kivu. Parce que pour informer, il faut avoir l'information. Et si cette information reste gardée par un certain nombre de tenants de cette information-là et elle n'est pas livrée, ou elle est juste livrée dans le sens où l'autorité voudrait qu'elle soit livrée, à ce moment-là, liberté de la presse, je m'inscris en faux. C'est-à-dire, elle n'existe pas encore. Voyez donc, il faut nuancer entre liberté d'expression et liberté de la presse, c'est comme liberté d'accès à l'information.
Voilà. Alors, Darius, par rapport à cet accès aux sources d'information, c'est-à-dire que vous, journalistes, vous voulez accéder à toutes les sources d'information, mais il y a quand même certaines informations, peut-être qui engagent la sécurité d'État, et les journalistes veulent tomber sur cette information et la diffuser.
Oui, mais pourquoi pas? Parce que, vous savez, chaque fois que le pouvoir aura quelque chose à cacher, à ce moment-là, on utilisera toujours cet aspect que les uns nomment raison d'État, que les autres appellent, je ne sais pas, force majeure, que les autres appellent, je ne sais pas, il y a beaucoup de termes là qu'on utilise pour dire que non, non, secret défense, et ainsi de suite. Eh bien, qu'est-ce qui se cache derrière ça? C'est la mauvaise gouvernance, c'est le détournement des deniers publics érigés en mode de gouvernance, c'est l'impunité, et à ce moment-là, chacun se réfugie derrière cette idée-là, ce concept-là, des secrets défense, parce qu'il en va de l'intérêt du pays, ainsi de suite. Mais nous devons remarquer que le journaliste doit être aussi professionnel. Et quand on dit un journaliste professionnel, c'est un journaliste qui est responsable devant les faits ou devant l'information que lui a ou qu'il a obtenue. Comment est-ce qu'il gère cette information? Mais il ne faut pas limiter déjà les journalistes sur base de secrets défense, ainsi de suite, mais donner d'abord cette information-là. Et maintenant, voyez le comportement du journaliste, parce qu'il est aussi appelé à être responsable. Mais être responsable, pas parce qu'on l'a limité, mais être responsable parce que sa pleine conscience lui impose cette responsabilité-là.
Voilà, merci beaucoup. Maître Papi Kajabika, ça fait longtemps que vous ne parlez pas dans ce studio. Vous, en tant que défenseur des droits de l'homme, est-ce que vous partagez les mêmes avis des intervenants dans cette émission?
Merci beaucoup. Je crois que les intervenants ont été en effet plus clairs. Et à mon niveau, je peux me permettre de dire qu'il y a une avancée dans la protection de ce que vous appelez liberté de presse. Pourquoi est-ce que je l'ai dit? Parce que sur le plan textuel, sur le plan normatif, on sent quand même qu'il y a une avancée. Et là, je vois, même si c'est une loi qui est vieille, la loi 002 du 22 septembre 1996, qui est en chantier et sur la table des députés pour sa révisitation, c'est déjà une avancée. Il y a l'édit provincial portant protection des journalistes et des défenseurs des droits de l'homme. Pour moi, c'est aussi une avancée. Il y a aussi tout un débat qui a eu lieu sur la dépénalisation du délit des presses, tous ces débats-là. Dès qu'on pose déjà les problèmes, ça signifie qu'on est sur les pas de chercher des solutions. Et donc, pour moi, tout ça constitue des avancées. Et si il faut les capitaliser et actualiser aussi, parce que j'ai suivi Douce dans son intervention, aborder quand même une dimension assez importante. Et tout ce que nous avons aujourd'hui comme médias sociaux, déjà en 96, ils étaient moins nombreux les Congolais qui disposaient d'un téléphone. L'Internet, c'était réservé à une certaine classe. Les fax, n'en parlons même pas. Il y en a qui n'ont jamais vu ça, même jusqu'à aujourd'hui, même si c'est passé aussi. Donc, toute la nouvelle dynamique sur la nouvelle technologie de l'information et des communications appelle la révisitation de la loi. Je suis même réservé de dire que la loi en chantier sur la table des députés, si elle a pris en compte la nouvelle technologie de l'information et de communication. Donc, sous réserve peut-être du contenu de cette loi-là, mais je crois que si ce projet qui est en fait en chantier n'a pas pris en compte la nouvelle technologie, il y a lieu de revenir sur le projet et insérer ces nouvelles donnes pour avoir une bonne fois pour toutes une législation qui va, n'est-ce pas, protéger dans toutes les dimensions les journalistes dans l'exercice de leurs fonctions. Mais au-delà de ça, je crois qu'il y a aussi lieu de réfléchir autrement, de voir que lorsqu'on parle de la liberté d'expression, il faut voir en face les abus. Parce que les abus, ils sont toujours là. Dès que c'est un être humain qui est journaliste, c'est une personne qui est journaliste, il y a toujours des faiblesses humaines, et ces faiblesses appellent les abus, et l'État a l'obligation de s'interférer entre la liberté de presse et les abus. Voilà pourquoi, entre d'un côté la liberté de presse, de l'autre côté les abus, il y a l'État qui doit être au milieu pour réglementer la chose, pour prévenir les pires, et pour sanctionner lorsque, exactement, les journalistes baigne dans ces abus-là. Donc, c'est très normal que entre la liberté et les abus, l'État interfère pour mettre un peu de l'ordre. Voilà pour l'instant ce que je peux donner comme point de vue.
Merci beaucoup, Maître Papi Kajabika. Il y a également certains habitants de Bukavu qui se sont exprimés sur la question. Nous allons devoir écouter les avis de certains habitants de Bukavu.
La liberté de presse n'est pas totalement respectée au site Kivu. Parce que quelque part, vous voyez, si les journalistes parlent des informations réelles, il y a des gens qui peuvent les prendre en cours de route. Les journalistes ne sont pas libres de dire tout ce qu'ils ont vu. Surtout dans des radios, des télévisions, des politiciens, cela n'est pas vraiment autorisé de dire tout ce que nous voulons.
Je dirais qu'il y a un peu de liberté d'expression. La presse est un peu libre, mais cependant, nous pouvons condamner quelques cas de répression de la presse, parce que si on touche des dossiers qui ne sont pas vraiment favorables au pouvoir actuel, vous trouvez que vous avez toujours des menaces par SMS, des services de renseignement qui vous interpellent à tout moment, mais il y a des fois quand même à louer les quelques efforts fournis par les pouvoirs en place pour garantir la liberté des presse.
Ces derniers temps, la situation de la liberté des presse au Sud Kivu reste toujours précaire parce que nous, les journalistes, ne sommes pas vraiment libres de dire tout ce que nous savons par rapport à la situation de notre pays, par rapport à la situation de notre province, par rapport à la situation dont nous vivons ces derniers temps à Bukavu.
Les avis en fait sont partagés. Hein.
Exactement.
Il y a Douce, vous partagez ces points de vue de ces habitants de Bukavu.
Disons, Élisée, qu'il y a quelques mois, on a été sur la rue accompagné de nos confrères Dona Moussema, dont le confrère de Isder a fait mention dans sa présentation au début de cette émission. Pourquoi est-ce que cela est arrivé? Simplement puisqu'il a été menacé dans l'exercice de son travail. Et le problème avec la loi de 96, c'est quoi? La définition même du délit de presse, c'est défini tel que toute infraction commise dans le cadre de l'exercice de ton métier. Et donc, tout ce qu'à un moment, le journaliste lui-même, il ne sait plus qu'est-ce que je suis en train de faire et qu'est-ce qu'on appelle maintenant infraction. Et là, on va revenir encore sur l'article suivant qui va parler de la diffamation, etc., etc. Et qui définit à quel moment tu as diffamé ou tu n'as pas diffamé? Et donc, ça devient beaucoup de questions. Et les journalistes eux-mêmes se demandent est-ce qu'il nous faut faire un combat pour dépénaliser les délits, puisque si on doit dépénaliser, qu'on a considéré des infractions qui ne le sont pas, puisque tu ne pouvais pas faire autrement. Il y a peut-être ces questions de balance, de son de cloche. Il y a des questions d'ordre déontologique que tu es appelé à suivre et qui, en le suivant, te poussent à commettre des infractions, entre guillemets. Et donc, on a vu plusieurs fois, lors de la rébellion d'un 23, etc., des journalistes qui veulent donner la parole à ces belligérants. Mais la loi, elle est là, elle vous dit, si vous donnez la parole à ces belligérants, ben, vous péchez. Et pourtant, le code d'éthique également de journalistes lui dit, ben, il te faut avoir tout le son de cloche. Ben, qu'est-ce que le journaliste se comporte comment? Et c'est tout ce débat pour dépénaliser, c'est-à-dire qu'on enlève cela comme infraction. D'un autre côté, il y a des juristes et aussi des autorités politiques qui se disent, est-ce qu'il faut décriminaliser? Il y a beaucoup de mots, disons, qui se ressemblent. Peut-être Maître Papi pourrait nous donner des nuances. Est-ce qu'il faut dépénaliser? Est-ce qu'il faut décriminaliser? Est-ce qu'il faut déjudiciariser? Est-ce qu'il faut déprisonnaliser? Donc, on se dit, mais c'est quoi, en fait, cette question? Et lorsqu'on voit que les journalistes ne sont pas peut-être menacés ou tués, etc., c'est pas forcément qu'ils sont maintenant en train de bien faire leur travail. C'est pas évident. Peut-être qu'on a muselé suffisamment pour leur dire, ben, en fait, beaucoup de bruit, taisez-vous à un moment. Mais le problème, c'est lorsqu'il n'y a pas cet entendement, ce même entendement entre les convictions professionnelles du journaliste, le contexte dans lequel il est en train de l'exercer.
Léo Mouniololo, est-ce que les journalistes ne sont pas menacés parce qu'ils ne respectent pas les lois du pays?
D'abord, je suis, c'est pas heureux, mais je constate que nous avons tous parlé de ce que j'ai dit tout au début, que les textes sont là, mais la réalité, c'est autre chose. Et quand on veut faire le journalisme sur le texte, pourquoi la multitude des textes? C'est qu'il y a quelque chose qu'on n'arrive pas à corriger. Parce qu'il y a des lois. 1996, ce n'est pas loin de nous. Mais pourquoi tous ces textes? C'est qu'on a trouvé que chaque fois, il y a quelque chose qui ne va pas. Donc, nous sommes d'accord que sur le plan texte, il y a avancé. Mais le journaliste, c'est celui qui quitte chez lui le matin à 5h du matin pour être surpris en cours de route et perdre les dictaphones, cartes, tout ça et téléphone. C'est ça le journaliste que moi je vois. C'est ça la liberté du journaliste que moi je conçois. C'est-à-dire, les textes des Congolais sont très forts en français et ils connaissent beaucoup de choses, ils écrivent très bien.
Mais qui ne sont pas mis en application.
Mais le journaliste, est-ce qu'il peut partir de chez lui et arriver au studio tranquillement? Mais les autres vont passer tranquillement peut-être. Mais pourquoi seulement viser le matériel du studio? Comprenez un peu. Oui, mais c'est impossible parce que je crois que même notre co-débatteur journaliste ne va pas me contredire. Personne ne respecte à 100% la loi. J'ai été avec les juristes pendant des années. Ils sont les premiers à craindre l'infraction, s'il vous plaît. Parce qu'ils disent ceci. S'ils apprennent que nous faisons ça, si ce type se plaint contre nous parce que nous avons fait ça, eux aussi réfléchissent. Ça signifie que tous nous sommes fautifs quelque part. C'est-à-dire, nous sommes des prévenus libres. Tous, même ceux qui font la loi. Nous sommes des prévenus libres. Alors, il ne faut pas s'attendre que ce soit le journaliste seul qui soit à 100% juste devant la loi.
Parce que c'est déjà un problème si on n'est pas juste devant la loi.
C'est un problème pour celui qui ne veut pas comprendre que le journaliste peut se tromper. C'est un problème pour celui qui voudrait que le journaliste parle d'une certaine manière. C'est pour cela que j'ai dit, la vérité, c'est laquelle? Quand nous avons un texte, est-ce que nous respectons ce texte ou bien nous voulons que le journaliste respecte notre desiderata?
Alors, directeur, nous allons prendre pour vous cette réaction qui nous vient des Minova, un habitant qui nous parle sur cet aspect-là.
Oui. Dire que la liberté de presse est garantie totalement ici, oui et non. Je vais dire oui parce que nous avons une collaboration étroite avec les autorités, nous avons une collaboration étroite avec certaines structures, mais aussi nous avons un problème parce que il y a des sources qui ne parvenons pas à décrocher, par exemple, et à obtenir une information auprès des autorités militaires, quelquefois c'est compliqué, obtenir des formation auprès de responsables des ONG ici, aussi c'est compliqué et donc en général je peux dire que c'est un peu bien parce que aucun de mes journalistes n'a jamais été agressé ou arrêté bon, mais aussi c'est grâce aux différentes formations que nous subissons, c'est parce que le journaliste aussi doit se sécuriser mais aussi parce que le même journaliste traite les informations avec équité, avec équilibre, pourquoi je dis qu'ils n'ont jamais été agressés.
Les journalistes doivent se sécuriser aussi.
Oui, oui, je suis d'accord, ils doivent. Parce qu'ils doivent savoir ce qu'ils font, pourquoi ils le font, et aussi le moment. C'est très important, l'environnement dans lequel on est, ce qu'on fait, ce qu'on dit, et aussi voir les conséquences de tout ça. C'est très important.
Voilà, merci beaucoup. Nous allons nous tourner vers le président de l'UNPC, Darius. Au niveau de l'UNPC, comment vous gérez cette question?
Bon, je voudrais peut-être recadrer un certain nombre de choses. Commençons par l'aîné Mounololo. Qui dit qu'il faut savoir dire, et quand est-ce qu'il faut le dire, et où est-ce qu'il faut le dire, eh bien, c'est ce que Douce aussi a appelé autocensure. Parce que du moment que l'on commence à se dire, et qu'est-ce que j'ai dit, comment je l'ai dit, où est-ce que je l'ai dit, bon, à ce moment-là, est-ce que nous sommes encore en plein exercice de la liberté de la presse? Moi, je crois que réfléchir dans ce sens-là aussi, c'est faire une autocensure. Et par conséquent, le progrès vis-à-vis de la presse, nous sommes en train de les stopper. Vous savez que dans le monde, il existe, comme l'a dit Mignololo, une infinité de textes. J'ai essayé de voir un peu les textes qui consacrent en effet la liberté de la presse. Eh bien, je n'arrive pas à tout avoir. Chaque fois que vous ouvrez une déclaration, cette déclaration vous envoie à d'autres déclarations. Et ainsi de suite, donc il y a un enchaînement là qui est, je dirais, tellement grand et infini presque. C'est ainsi qu'en Afrique, vous avez des déclarations de Banjul, des déclarations de Windhoek, des déclarations de Dakar, des déclarations, il y a une infinité. Si vous allez dans le monde, il y a la déclaration de Santiago, la déclaration d'Alma, la déclaration de... Oui, de Munich, la déclaration de la Fédération des journalistes. Il y en a tellement qu'on s'est dit, finalement, pourquoi ça ne finit pas? Et toutes ces déclarations-là, je ne parle pas même de résolution des Nations Unies également. Et chaque résolution, chaque déclaration, c'est un rapport. Et en période électorale, en période post-électorale, période, je ne sais pas, et ainsi de suite, vous en avez. Mais c'est à nous de voir, nous journalistes, qu'est-ce que nous sommes? Des chiens de garde ou des chiens de salon? Si nous choisissons d'être les chiens de salon, c'est-à-dire nous devenons la cinquième roue du carrosse, et par conséquent, on joue les jeux. Et lorsqu'on est un chien de salon, c'est-à-dire on mange avec le maître, on attend ce que le maître va jeter pour sauter dessus, et ainsi de suite. Est-ce que ce n'est pas ce que traverse un certain nombre de journalistes aujourd'hui? Avec les systèmes de coupage, les systèmes de transport, les systèmes de quoi? Ça, c'est être un chien de salon.
Voilà. Et Maître Papu, nous allons prendre pour vous ces réactions qui nous viennent de Walungu.
elle est garantie à 50%. Malheureusement, les journalistes n'accèdent pas facilement à l'information. Et il y a encore des blocages, il y a encore des freins qui limitent un journaliste de pouvoir bien faire son travail comme il le faut.
Aux officiels, peut-être qu'ils ne permettent pas aux journalistes d'accéder à des informations, aux journalistes pour qu'ils puissent en fait aussi parvenir à donner des informations nécessaires et sûres à la population. Quelquefois, les journalistes, certes, ont des problèmes suite à la non-accessibilité à des informations sûres. Mais quelquefois, nous déplorons des harcèlements à l'endroit des journalistes quand ils diffusent leurs informations.
Elle n'est pas réellement garantie. Puisque les journalistes des radios présents ici à Walungu, ils ne s'expriment pas librement. Puisque l'exemple typique est qu'il y a un journaliste qui a été arrêté plus de 21 jours dans une prison pour avoir seulement fait les deux sons de cloche tels qu'il les fasse. Les autorités, on ne les entend jamais s'exprimer par rapport à une situation qui est ici chez nous. C'est ce qui fait que moi je crois que la liberté de la presse n'est pas vraiment garantie ici chez nous.
Alors, Maître Papy, tous ces instruments ratifiés par la République démocratique du Congo, mais malheureusement, beaucoup ne sont pas mis en application. Et récemment, la province s'est dotée de l'édit portant protection de journalistes et des défenseurs des droits de l'homme. Cette question vous intéresse également en tant qu'homme de droit.
Merci beaucoup. Je dois rappeler une chose. En latin, on dit « ubi societatis ubi est ». Dès qu'il y a une société, il doit y avoir des normes, il doit y avoir des lois. Et donc, il ne faut pas vous voler, cher Darius. La multitude, là, c'est ça qui fait la beauté même de la liberté de la presse. Il faut avoir beaucoup de textes. C'est tout ça qui vous protège et qui vous met à l'abri de tout ce qui peut être interférence dans votre métier. Et donc, qu'est-ce qu'il faut dire? Lorsqu'on analyse la liberté de la presse, il faut l'analyser en diagonale avec des autres droits. Vous l'avez déjà dit, les droits à l'information et les droits à la liberté d'expression. Et nous, je peux encore me permettre de dire qu'il y a quand même une avancée aussi sur ce qui, sur le plan liberté d'expression. Il y a quand même des gens qui passent sur différentes chaînes et qui donnent leurs opinions, leurs points de vue, ce qui ne pouvait jamais se faire avant 96. À l'époque de la dictature et de Mobutu. Donc il faut quand même reconnaître certaines avancées. Et je crois que les journalistes aussi, parfois, ils sont responsables de tous les traitements dont ils sont victimes aujourd'hui. Un journaliste qu'on trouve à 22h sur la route, ça signifie que ce journaliste s'est retrouvé à un mauvais moment et à un mauvais endroit. La tendance pour le coupeur de route, c'est quoi? C'est de prendre tout ce qu'il a de valeur. Si c'est le dictaphone qu'il a de valeur, le coupeur de route, c'est un incivique. Lui ne veut que prendre un objet de valeur. Est-ce qu'on a pris ce dictaphone parce qu'il est journaliste? Non. C'est parce qu'il s'est trouvé à un mauvais endroit et à un mauvais moment. Donc, je crois que les journalistes doivent aussi être responsables. Et s'ils rentrent dans leur code de déontologie, vous allez voir qu'il y a ce qu'on appelle les mesures de contingence qui sont permanentes. Un journaliste ne peut pas se retrouver à 23 heures en train de déambuler sur la route. Non, il doit prendre quand même certaines mesures.
Mais s'il était en mission de service ?
Là, c'est autre chose. S'il était en mission de service, il y a quand même certaines garanties qui entourent cette mission-là. Soit la voiture de sa maison d'attache, soit il est en équipe, et donc c'est des mesures qu'il doit prendre. Il y a aussi un fait, les journalistes doivent sauter sur des occasions. Vous avez vu comment Donado Moussema a osé. Et voilà les résultats. Donc il ne faut pas toujours voir dans une certaine mesure que non, les institutions judiciaires ne font rien. Non, mais il faut aller là-bas. C'est un tout premier cas de figure qu'a Donado Moussema. Et les résultats sont là. Même s'ils sont en appel. Mais au moins, c'est déjà pédagogique. Les journalistes savent que si je suis victime de ça, 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 il y a une voie qui est ouverte. Les tribunaux de paix sont là. Les tribunaux de grande instance sont là. Les cours d'appel sont là. Donc il faut saisir la balle au bon. L'on a droit à commencer, c'est déjà une jurisprudence et je crois qu'il faut continuer sur cette lancée-là. Et vous allez voir que cette multitude de textes-là vous protège quand vous dénoncez et quand vous suivez jusqu'au bout la procédure.
Douce, nous prenons également pour vous ces réactions qui nous viennent de Kamanyola. Les propos sont en swahili.
Mimi naitwa mtumishi Samuel. Unaweza kuhakikisha ama unajua kwamba uhuru wa pashabari uko hapa kwetu au hapana?
Hapana.
Ni kwa sababu gani?
Kwa sababu hatufate radio zetu za nchi. Tunafata sirtu maradio za kigeni na za majirani. Habari zetu za nchi hatuzipati. Tunazipata kupitia radio za kigeni.
Asante sana.
Asante na wewe.
Tuazigas naishi Kasheni.
unawazia kama uhuru wa pasha habari unaweza kuwa huko hapa kwetu?
Hapa kwetu naona uhuru wa pasha habari haupo, lakini Kongo mzima inaweza kuwa. Hapa kwetu Kamanyola tunaona ba journaliste kwanza wao pekee habana uhuru, bako sawa banaendaka na bako naenda tu, haujui journaliste ni nani. Utaona tu na anapita tu, iko napita, hautajua venye iko natafuta. Ndio maana tungepasha tujue kwanza baba patia hata basi vitambulisho, tukuwe najua kama ni ba journaliste juu na shetu ye kama uhuru yao iko pako. Mtu mateza hata gombana na journaliste juu hamjui, napasha mkwe na mavazi ya kubatambulisha.
Asante sana.
Asante.
Mama, unawazia kwamba uhuru wa pashabari huko hapa kwetu wala pana?
Hakuna uhuru. Kuko vitu wenyewe journaliste anaweza sema, kama ni vya kweli wanamuiba usiku. Ana disparate. Na ndio maana wa journaliste hawatayaki kila kitu. Unakutaka wanasema kidogo ya kweli na kidogo wananyamani.
Nakushukuru sana.
Voilà, Douce, votre réaction, vous venez de suivre les avis hein, de ces auditeurs de Kamanyola qui s'expriment également sur la situation de la liberté de la presse dans leur entité.
Tout à fait, Élisée, ils ont montré effectivement qu'à Kamanyola, la grande impression c'est qu'il n'y a pas liberté de presse. Et je dois également dire qu'il ne nous faut pas confondre la liberté de la presse avec le libertinage tel que le dit des dictionnaires français, puisque c'est pas que le journaliste lui est permis de tout dire, de dire n'importe quoi, de dire comme il le veut, non. Et c'est pour ça qu'il y a même des codes éthiques, des codes de déontologie. Il y a beaucoup de manuels même pour apprendre aux journalistes comment être journaliste. C'est tout un apprentissage. Et que lorsque tu vas maintenant en dehors de tout ce que tu as appris, c'est là que tu commences maintenant à violer ce que la loi interdit. Et donc il y a cette liberté, c'est lorsque tu t'es dit professionnellement parlant, je suis en train d'exercer mon travail tel que je le dois. Mais lorsque il y a une violation, lorsque tu vas auprès des autorités mais qui te disent ben ça c'est top secret, on te livre pas cette information, là c'est une violation. Puisqu'ils savent elles-mêmes, plutôt elles savent ces autorités qu'elles ont également l'obligation d'informer et que c'est à travers le média, c'est à travers les outils de communication qu'ils peuvent mieux les faire. Mais lorsqu'ils ne facilitent pas l'exercice de ton métier, là c'est là que ça devient compliqué. L'autre fois, on a fait beaucoup d'activités par rapport à toujours cette question de la liberté de presse. Je me rappelle, vous avez même réalisé beaucoup de missions avec les autorités militaires et même politico-judiciaires, etc., sur l'accès aux sources d'information. Et Darius est revenu sur ça tout le temps. C'est que beaucoup de gens n'ont pas compris l'importance d'une presse dans une société. Et qu'ils se disent, ben c'est la tête d'Élysée qui vient là, ces journalistes-là, ils vont mettre toutes mes affaires dehors. Pourquoi? Puisque les journalistes, ils exercent aussi son travail dans un contexte d'un imbroglio là, politique peut-être, où on sait qu'il y a peut-être des questions de détournement, de corruption, de violation de droits, etc., qui sont là et qui ne veulent pas forcément que ce soit connu. On veut préserver une certaine image de notre province, de notre société, et donc le journaliste n'est pas forcément bienvenu. Alors que dans les sociétés développées, on a vu que c'est la presse qui a joué un rôle vraiment important pour influencer même les opinions, pour influencer la façon de gens de concevoir les choses et de réfléchir et d'aller de l'avant. Et lorsqu'on est 152e pays sur 180, ben, il nous faut réfléchir, nous tous, sur pourquoi ce classement.
Voilà, merci. Nous prenons cette réaction, disons, ces reportages hein, que nous vient de la radio Les Messagers du Peuple d'Ouvira. Darius, nous prenons pour vous ces reportages et puis on se retrouve juste après.
L'humanité célèbre le 3 mai de chaque année la Journée internationale de la liberté de la presse. Cette journée est l'occasion pour les activistes des droits humains et les professionnels des médias de célébrer les principes fondamentaux de la liberté de la presse, d'évaluer cette liberté, mais aussi de défendre les attaques des médias contre leur indépendance. remercie les journalistes du site Kivu pour saluer les efforts que mènent les gouvernements provinciaux dans leur protection, notamment en promulguant en février dernier un cadre juridique portant protection des journalistes et défenseurs des droits humains. Toutefois, les professionnels des médias d'Uvira et Fizi dressent un bilan sombre. Les journalistes sont interpellés ou arrêtés par les services de sécurité. D'autres sont harcelés ou menacés par les autorités locales. En titre d'exemple, le 13 octobre 2015, trois journalistes de la radio Les Messagers du Peuple et l'un de la radio publique africaine RPA, une chaîne émettant depuis le Burundi, ont été arrêtés à Uvira par les services de renseignement des FRDC alors qu'ils se trouvaient à leur lieu de travail. Après 24 heures de détention cachée des renseignements militaires, des confrères de la radio Les Messagers du Peuple ont été libérés, alors que l'autre confrère de la RPA est toujours en détention à Kinshasa, malgré les efforts des activistes des droits humains exigeant sa libération. Lucien Kanana, journaliste de la radio Les Messagers du Peuple, l'une des victimes de cette arrestation, nous relate dans quelles circonstances il a été arrêté et les traitements lui réservés par les services de sécurité.
Nous étions assis quelque part avec les confrères et tout de suite là on a vu débarquer toute une cohorte de militaires qui nous avaient emporté manu militaris, en tout cas avec toute la rigueur qu'ils ont utilisée et la violence aussi. La détention a duré 24 heures pour nous autres, pour les deux journalistes de la radio Les Messagers du Peuple, mais pour notre confrère, ça fait plus de deux semaines au bureau D avant qu'il ne soit transféré dans un lieu inconnu jusqu'à présent. Nous avons été intimidés, violentés même, psychologiquement, torturés psychologiquement. Nous avons passé la nuit dans des conditions vraiment difficiles, même le sol, sur un petit matelas avec d'autres détenus, d'autres condamnés, d'autres criminels. Et chaque fois, nous étions soit intimidés, soit interpellés, soit menacés, quelque chose comme ça. C'est, voilà comment est-ce qu'on a fait 24 heures, mais on a cru que c'était 24 jours à cause des menaces.
L'Association des journalistes pour la paix et le développement territoire d'Uvira et Fizi nous présente l'état des lieux de la presse dans ces territoires. Pour son coordinateur, Gaius Chabilepa, les journalistes de cette contrée ont parfois des difficultés d'accéder à des sources officielles.
Par rapport à l'état des lieux des mondes médiatiques en territoire d'Uvira, on se rend compte que petit à petit, la population ouviroise comprend l'importance du travail que mènent les journalistes sur le terrain, parce que ce que nous avons vécu auparavant, il y a plus de 10 ans, c'était difficile pour quelqu'un d'Uvira de s'exprimer au micro, de dire quelque chose, de faire une dénonciation. Mais aujourd'hui, on se rend compte que lorsqu'il y a des incidents qui se produisent, les gens se donnent au micro, ils expriment leurs pensées. Donc, s'agissant des métiers des journalistes, du fait que nous sommes dans un milieu où il y a plusieurs communautés, et toutes les communautés ne pensent pas de la même manière. Différents, il y a des conflits, ce qui fait que les journalistes aussi ont quelques difficultés d'accéder à certaines informations. Et donc, par rapport à la sécurité, nous trouvons que certains services de sécurité collaborent au moins avec les médias. Et sont toujours, c'est comme si ils se sentent mal à l'aise lorsqu'un journaliste arrive à dénicher une information qui concerne leur travail.
Pour les défenseurs des droits humains, l'environnement dans lequel travaillent les professionnels des médias d'Uvira et Fizi n'est pas propice pour les garantir leurs droits fondamentaux. Quand un journaliste est harcelé tout simplement parce qu'il a fait passer les points de vue d'une ou l'autre couche de la population, cela met en cause son droit d'informer la communauté, regrette l'ONG Archer d'Alliance. La synergie des médias d'Uvira et Fizi SIMOUFE de leur part reste optimiste. Patient Debaba, secrétaire exécutif de la SIMOUFE et point focal des journalistes en danger à Uvira, pense bien que la promulgation de l'édit sur la protection des journalistes et défenseurs des droits humains, ça va améliorer tant soit peu leur façon de travailler, mais aussi ça les garantirait leurs droits. Uvira, Elie Lambert Kalembiré pour la radio Les Messagers du Peuple.
Merci Elie Kalembiré. Alors, monsieur Darius, est-ce qu'il n'y a pas vraiment exagération hein, de la part de certains services de sécurité?
Bon, par rapport à
la réalité d'Uvira.
Oui, par rapport aux journalistes ou par rapport à quoi, au traitement réservé aux journalistes?
Exactement, hein, particulièrement la situation qui s'est passée à Uvira avec plusieurs cas d'arrestation, d'interpellation de collègues journalistes.
Bon, vous savez, confrère Élisée, nous devons nous mettre d'accord ici, devant ce micro, sur le travail rendu par les confrères d'Uvira. Moi, j'ai toujours apprécié leur courage parce que si un journaliste est toujours aussi en paix, il n'a pas de menaces, ainsi de suite, c'est que quelque part, il ne fait pas très bien son travail. Parce que choisir d'être journaliste, c'est déjà un risque. Un risque énorme. Et dès qu'on choisit d'être journaliste, c'est-à-dire on devient redevable vis-à-vis de la population. Et par conséquent, ceux qui gèrent la population ne digèrent pas le travail des journalistes. Parce que nous, l'intérêt, le premier intérêt, l'intérêt primordial, comme on dit, c'est l'intérêt de la population. Et le politique, lui, ne veut pas que les journalistes parlent pour la population. Voilà le risque. Et à Ouvira, je crois qu'on est là-dedans, en fait. On s'est dit, pour le bien de la population, on y va. C'est un exercice difficile. Parce que même dans des pays où l'expression orale, comment on dit, où la liberté d'expression a suffisamment avancé, comme des grandes démocraties, notamment des pays comme le pays de la Scandinavie, ou même, citons la France, même si la France est alignée comme 34e au monde, et les États-Unis, même si les États-Unis aussi occupent la 38e place au monde selon les classements de Reporters sans frontières, nous pouvons dire qu'au début, ça n'a pas été aussi la même chose. Ça a été tout un combat avec les Robespierre et consorts, tous ceux qui sont venus après. C'était un problème terrible en France. Vous pouvez consulter Google et vous aurez toutes ces données-là. Et aujourd'hui, tout le monde a compris que la presse doit être libre, que la presse doit dénoncer, que la presse, c'est le moteur même du progrès. Et par conséquent, les pays qui ont accepté cette liberté de la presse, ce sont des pays qui ont avancé. Parce qu'au moins, on a réduit ce qu'on appelle la mauvaise gouvernance. Parce que c'est la dénonciation qui est un remède à tous les abus du pouvoir.
Voilà, merci beaucoup Darius. Et pendant que le monde s'apprête, disons, le monde célèbre la journée internationale de la liberté de la presse, que peut-on retenir? Je vais prendre cela comme votre conclusion.
Oui, ce que nous pouvons retenir à la date d'aujourd'hui, parce que l'année continue, je demanderai aux journalistes de Bukavu aussi d'avoir le courage de dénoncer et de ne pas se laisser faire, se laisser intimider. Parce que nous sommes en train de travailler pour notre population, et comme nous n'avons que cette population-là comme l'objectif du travail que nous sommes en train de rendre, eh bien, à Bukavu, on aimerait aussi avoir des journalistes qui osent. Parce que le journaliste, c'est celui-là qui fait peur. Et s'il ne fait pas peur, par conséquent, il devient comme un citoyen ordinaire, et tous les textes de loi consacrés à la liberté de la presse, ici chez nous, ne seront que de lettres mortes.
Voilà. Douce, votre conclusion.
Merci beaucoup. En cette date où on célèbre la liberté de la presse, je voudrais juste revenir sur la question de l'indépendance du journalisme. Pour être vraiment libre, il faut également être indépendant. Et donc, dès qu'il y a d'autres liens que le journaliste, c'est compliqué de se dire qu'il est indépendant. Il y a également cette question de la responsabilité vis-à-vis de tiers, vis-à-vis de l'ordre public et vis-à-vis également de la société pour pouvoir jouer à bien son rôle d'informer. Également, pour mieux informer, il faut également être informé. Et pour finir, je voudrais peut-être revenir sur la question de mon confrère Darius, que le journaliste fasse peur, soit, mais moi, le journaliste, il doit vraiment être respecté et se faire respecter. Qu'il fasse peur ou pas, mais dès lors qu'on respecte le travail qu'il fait, dès lors qu'on le considère vraiment comme le pilier même ou bien la personne autour de laquelle le changement de la société va arriver, c'est ce qui est vraiment le plus important.
Dio Mugnololo. Moi, c'est plutôt un constat. À travers tout ce que nous sommes dit ici, nous constatons au niveau de RATECO finalement que c'est en ville où on croit qu'il y a liberté de presse, mais nos radios communautaires sont en train de souffrir, sont en enfer dans les territoires ruraux. Merci.
Merci, Maître Papi, nous allons terminer par vous.
Merci beaucoup. Je dois profiter de cette occasion pour dire merci à nos journalistes parce que nous sommes les consommateurs de leurs produits. Le travail qu'ils produisent dans le contexte qui est le nôtre, il est vraiment à louer. Deuxième chose, je dois dire aux journalistes que le journaliste ne l'est que lorsqu'il est vivant. Il faut éviter de vous exposer. Troisième chose, j'en profite pour demander à nos députés de faire de la loi qui est sur leur table une priorité pour clarifier certaines choses parce que les journalistes ont vraiment besoin d'une protection adéquate par rapport au travail qu'ils font. Et en dernier lieu, je dois dire que même si vous cherchez des informations, il y en a qui ne doivent pas être diffusées pour l'intérêt de ce qu'on appelle la société dans sa tranquillité. Il y a des informations, si une fois diffusées, il y a la société qui est troublée dans sa tranquillité et ça s'écarte même de ce que nous attendons de vous. Merci.
Voilà, merci beaucoup Maître Papi Kadjabika. Je rappelle que le 3 mai, c'est la journée internationale de la liberté de la presse. Au Sud Kivu, rien d'officiel n'est prévu jusque là. Nous sommes donc à la fin de cette émission. Mesdames, Messieurs, merci de l'avoir suivi. Cette émission sur la situation de la liberté de la presse a été réalisée par le réseau des radios et télévisions communautaires du Congo, RATECO Sud Kivu, en collaboration avec la Fédération de radios de proximité du Congo, FRPC, avec l'appui financier de l'UCAID via Internews. Merci d'avoir suivi cette émission à travers la province, via bien entendu les radios Maendeleo, Neno Laozima, Maria Isder de Bukavu, les messagers du peuple à Uvira, Sangé, RCK de Kamanyola, Mulangane de Walungu, Amka de Bunyakiri dans les territoires de Kale, Bubandano de Minova, Obuguma dit du Nord et Edulino dit du Sud. Voilà, merci donc à tous les invités qui se sont disponibilisés. Darius, merci. Maître Papi, merci.
C'est moi qui dis merci.
Deo Mugnolo, le président du conseil d'administration du RATECO, merci.
Merci Élisée.
Douce Namwezi, chargé des programmes AFM, merci.
Merci cher confrère.
Merci également chers auditeurs d'avoir suivi cette émission avec de l'intérêt. Elle a été produite en direct depuis le studio 2 de Radio Maendeleo. Élisée Mouzalia, j'ai signé la présentation. Au revoir et bon suivi de programmes sur nos antennes.
C'est comme ça, la démocratie du plus fort.